Amen.
Amen.
Alors, effectivement, Pierre, je rebondis sur la parole que tu as donnée. Les disciples, entre la mort et la résurrection de Jésus, étaient un petit peu perdus. Mais avant d'être mort sur la croix, Jésus leur a dit « Je vous précéderai en Galilée ». En gros, il disait « Continuez votre chemin, mais moi je suis devant vous ». Et ce que j'aime, c'est quand Jésus est mort sur la croix, finalement, les disciples avaient cette parole-là « Je vous précéderai en Galilée ». Ils ne laissaient pas un cadavre derrière eux, mais ils allaient au-devant de Jésus qui était ressuscité. Et ce Jésus, il est toujours devant nous, ressuscité encore aujourd'hui. Pour rebondir sur ta parole, Pierre, merci beaucoup. Ce matin, je vous invite à laisser l'Épître aux Corinthiens de côté pendant quelques temps et puis de cheminer dans cette marche qui nous amène vers Pâques. Et dans cette marche, dans cette préparation pour Pâques, je relis les textes qui précèdent l'arrestation, la mort et puis la résurrection de Jésus. Et puis, quand j'ai lu ces textes, j'ai été touché par le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Ces versets, je ne sais plus par cœur exactement, mais ils étaient mentionnés dans les CNews, que vous avez peut-être lu aussi. Ce qui m'a touché dans ces versets, c'est qu'on parle de Judas qui trahit Jésus, de Jésus qui prend le repas de la Pâque avec ses disciples, et puis à la fin de ce repas, Jésus annonce que Pierre va le renier. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a surpris, c'est que Jésus fait un repas avec ses disciples. Il désire vivre ce repas avec ses disciples, alors qu'il y en a un qui vient de le trahir, et un autre, juste après, qui va le renier. Malgré tout, Jésus désire vivre ce repas avec ses disciples. Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce repas. Et c'est ce que je me propose de faire ce matin, et je vous invite à venir avec moi à la table que Jésus nous invite. Je vous le dis d'emblée, dans ce que nous avons partagé jusque-là, il y avait deux erreurs. La première, Judas, d'avoir trahi Jésus, c'est pas bien. On est d'accord là-dessus. La deuxième, Pierre qui renie Jésus, c'est pas bien. Mais je pense qu'on peut pas donner un 10 sur 10 à Jésus non plus. Effectivement, si on était un bon juif de l'époque, la manière dont il prend le repas de la Pâque pose deux, trois questions quand même. Et je vous invite à découvrir ce repas que Jésus prend en Matthieu 26, verset 17. Et nous verrons en quoi Jésus n'a pas fait tout juste dans ce repas. Matthieu 26, 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz. » Le maître dit « Mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ici s'arrête notre lecture. Ce texte ne vous est certainement pas inconnu. Nous le reprenons régulièrement, en partie pour introduire la scène que nous prenons dimanche après dimanche, le repas auquel Jésus nous invite. Et Matthieu nous raconte ce repas, nous raconte ce texte entre une trahison puis un prochain, une annonce de reniement. Et Matthieu, il fait pas seulement un compte-rendu factuel des événements. Matthieu nous invite à revisiter les institutions de l'Ancien Testament à travers les mots et les tournures qu'il utilise. Il y en a d'ailleurs tellement que pour respecter un temps convenable, je ne les ai pas toutes abordées. Vous pouvez encore creuser après chez vous. Je vous ai dit que Jésus avait fait quelques erreurs dans ce repas de la Pâque et je vous propose qu'on les reprenne ensemble. Notamment le jour où il fête la Pâque pose problème. Verset 17, Matthieu commence à placer ce repas dans le temps. Il nous dit qu'il a lieu le premier jour des pains sans levain. C'est un détail important, non? Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Ça ne vous dit rien, moi non plus. Mais le premier jour des pains sans levain concordait avec le début de la Pâque. Jusque-là, rien de surprenant. Mais Matthieu semble être contredit par Jean, l'évangéliste, qui nous dit des indications plus précises. Il nous dit en Jean 13 que ce repas a lieu la veille de la Pâque. Matthieu dit qu'il a lieu au premier jour de la Pâque et Jean nous dit la veille de la Pâque. Est-ce qu'il y a une erreur? Que se passe-t-il? Il y a des théologiens qui ont écrit des articles immenses là-dessus, je vous les épargne volontiers. Mais on arrive à faire concorder tout cela en sachant que dans le judaïsme, un jour commence le soir d'avant. Donc notre dimanche n'a pas commencé ce matin au réveil, mais le samedi soir. Et puis en tenant compte de cela, on peut dire que le premier jour des pains sans levain, en réalité, c'était la veille au soir. Tout cela pour dire que Jésus a effectivement pris ce repas la veille de la Pâque. Si les détails techniques vous intéressent, je peux vous fournir les articles. Bon courage. Jésus fête la Pâque la veille. Est-ce qu'il s'est trompé de date? Est-ce que Jésus est rebelle envers sa religion? Est-ce qu'il cherche à se faire remarquer? Dans le judaïsme, la date de la Pâque ne pouvait pas être négociée. Il y avait un jour défini, c'était comme ça. Tout était organisé pour que la Pâque se vive un jour précis. Le jour même, on amenait les agneaux au temple l'après-midi pour qu'ils soient tués et consommés le soir même. Jésus fait donc tout faux. Il avance la fête de la Pâque. Il fait ça un jour plus tôt. Du coup, sans agneau, parce que le temple n'était pas encore en service pour tuer l'agneau comme c'était le lendemain. Comment est-ce que Jésus peut se tromper sur une fête aussi importante? Imaginez que vous recevez l'email de nouvelles de l'église à Cossonay et puis que vous lisiez que le culte de Pâques est annulé, qu'on le fait le samedi. J'imagine que je recevrai quelques mails ou téléphones en retour. C'est bizarre, ça colle pas. Ça surprend. Mais on voit aussi dans les évangiles, quand il y a une urgence, quand il y a quelque chose d'important à démontrer, Jésus n'hésite pas à passer au-dessus des règles, des multiples règles de la loi des pharisiens. Il n'hésite pas à les transgresser pour nous montrer qu'il y a quelque chose derrière. Pour Jésus, les événements se précipitent. Les chefs de la loi commencent aussi à comploter contre lui. Judas a négocié la trahison. Tout est mis en marche pour que Jésus soit arrêté prochainement. Et devant l'imminence de ces événements, Jésus avance la fête de la Pâque. Et Luc nous donne un détail très précis. Il nous dit que Jésus a dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus souhaitait rassembler ses disciples, un traître puis un qui va le renier, entre autres. C'était important pour lui de vivre ce repas, quitte à l'avancer et à faire une erreur. quitte à le fêter même sans agneau. Les disciples ne comprennent peut-être pas ce qui se passe. Ils font ce que Jésus leur dit, le maître a souhaité fêter la Pâque. C'est son choix. Ils ne comprennent peut-être pas ce qui se passe à ce moment-là. Mais peut-être qu'ils comprendront aussi plus tard que si Jésus a avancé cette fête d'un jour, il y a une coïncidence étonnante. C'est que du coup, le jour où Jésus est mort sur la croix coïncide avec le même temps où on égorgeait les agneaux dans le temple. Est-ce une coïncidence, ou plutôt un calcul précis de notre Seigneur qui s'identifie comme l'agneau par excellence et qui donne sa vie pour ses disciples? Je ne crois pas à une coïncidence. Je crois que les moments étaient calculés, que Jésus meurt en même temps qu'on égorgeait les agneaux pour la Pâque dans le temple. C'était la première erreur de Jésus. On voit qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose quand on comprend pourquoi. Maintenant qu'on a compris un petit peu mieux pourquoi Jésus avait avancé la Pâque, il y a une autre erreur qui paraît un petit peu plus légitime d'être soulevée. On peut se demander si, pour cette nouvelle erreur, ça se passe au niveau des éléments, notamment de la bénédiction que Jésus donne sur le pain. Matthieu nous dit, au verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jésus dans cette phrase ? Alors c'est peut-être moins flagrant, mais il faut regarder comment se déroulait un repas de la Pâque dans le judaïsme ancien. Peut-être toujours aujourd'hui, j'ai pas tellement creusé la question. Matthieu nous dit que Jésus a prononcé la prière de bénédiction. Point. Cette prière de bénédiction, il n'y a pas besoin de la réécrire. Matthieu n'a pas besoin de l'écrire, elle était connue de tout le monde. Tout le monde connaissait cette prière de bénédiction, et je crois bien qu'aujourd'hui c'est encore la même. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait naître le pain de la terre. Tout est dit dans cette prière. Mais Matthieu mentionne que Jésus y a ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose à cette prière. Pas bien, dirait un pharisien. On n'ajoute rien à cette prière. Cet ajout peut paraître énigmatique. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Plus qu'un ajout, c'est une révélation puissante. Jésus parle du pain comme son corps. Il indique par là à ses disciples qu'il mourra d'une mort violente. Peut-être jusque-là, les disciples espéraient avoir mal compris les paroles de Jésus quand il leur annonçait qu'il allait mourir. Maintenant que Jésus prononce ces paroles, « Prenez, mangez, ceci est mon corps », il n'y a pas de doute possible. En se référant au pain, Jésus annonce qu'il va mourir. Imaginez les disciples devant cette révélation. Le repas de la Pâque prend une tournure tout à fait extraordinaire. Et certainement, eux qui étaient proches de Jésus, amis de Jésus, ces paroles étaient difficiles à avaler. C'est pas facile d'accepter que son Seigneur dise « Mais en fait, je vais mourir ». Et peut-être que pour les disciples, ces paroles étaient encore plus difficiles à accepter que Jésus leur donne un ordre « Mangez ». Mangez. Jésus dépasse la leçon d'objet. Il donne ici l'idée que les disciples sont impliqués personnellement dans les conséquences de sa mort. Le pain n'est pas juste une illustration de ce que Jésus donne sa vie pour ses disciples. Les disciples sont personnellement impliqués dans les conséquences de sa mort. Mangez. Mangez. Et cet ordre de Jésus peut-être leur rappelle le discours que Jean l'évangéliste relate où Jésus dit « Je suis le pain qui donne la vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. » Ce discours de Jésus devient maintenant concret. Les disciples doivent manger le pain. Et le temps de mâcher le pain, les disciples ont certainement le temps de se souvenir des paroles de Jésus. « Je suis le pain, et je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus commet à nouveau cette erreur quand il prend la coupe. Il ajoute aussi quelque chose à la prière de bénédiction. Je ne la sais pas en hébreu, donc je ne vous la fais pas. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Quelle révélation! Et les mots sont choisis avec soin. Dans cette phrase, qui fait deux lignes dans mes notes, il y a trois références à l'Ancien Testament. Jésus désire ancrer ce qu'il fait, ce qu'il va faire dans l'Ancien Testament. D'abord, le sang de la Nouvelle Alliance fait écho à l'Exode. Exode 24:8 qui nous dit que Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de ses paroles. » Jésus reprend les mêmes mots, le sang de la nouvelle alliance. Il y a une ancienne et une nouvelle alliance, le sang de l'alliance. Ce parallèle rappelle aux disciples qui étaient là présents autour de la table que la relation entre Dieu et son peuple s'est toujours jouée, a toujours dépendu de l'effusion du sang. Alors si au temps de Moïse c'était un agneau, maintenant, c'est Jésus, fils de Dieu, qui va donner sa vie. Son sang va couler pour racheter ses disciples. Ensuite, Jésus parle de la coupe qui est pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés renvoie directement à Jérémie 31 qui nous dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. » Et au verset 34, « En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Deuxième référence à l'Ancien Testament, Jésus ancre ce qu'il est en train de faire dans une révélation. Et ensuite, Jésus dit que son sang est versé pour beaucoup. Ce « beaucoup », on le retrouve chez le prophète Ésaïe, Ésaïe 12, qui nous dit « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » À ce moment-là, les mots de Jésus sont choisis avec soin, et Matthieu les relaye aussi. Pour que nous fassions ce lien avec l'ancienne alliance. Pour les disciples, c'est un tournant. Ce que Jésus est en train de faire est profondément ancré dans l'Ancien Testament. Il va amener cette ancienne alliance à son plein accomplissement. Les disciples, à ce moment-là, comprennent certainement qu'ils sont clairement à un tournant de l'histoire. On comprend mieux maintenant pourquoi Jésus a avancé la fête d'un jour et qu'il a ajouté quelques phrases à ses prières traditionnelles. Ce repas marque un tournant. Cette Pâque n'est pas la même une Pâque ordinaire. Jésus inaugure quelque chose de nouveau dans ce repas. Et à ce repas, on retrouve Judas, qui a trahi Jésus, et on retrouve Pierre qui le reniera plus tard. Comme si ce repas, il n'y avait pas besoin d'être parfait, d'avoir un certain niveau de compétence. Mais Jésus dit qu'il a tout payé. Le sacrifice de Christ concerne tout le monde. Il n'y a personne, aucun péché ne peut être, n'est trop grand pour être effacé par le sacrifice de Christ. Et nous aussi aujourd'hui, quand nous reprenons ces éléments, ce pain et ce vin, quand nous mangeons le pain et buvons la coupe, nous montrons aussi que nous nous plaçons sous le sacrifice de Christ. On reconnaît qu'on n'arrive pas à se sauver nous-mêmes de nos péchés. Et peut-être que Pierre, comme Pierre qui prend ce repas avec Jésus, où Jésus lui dit « mais tu vas me renier » et puis Pierre lui dit « non, sûrement pas », peut-être que nous aussi on est là ce matin en disant « mais je prends ce repas, mais certainement je ne vais pas retomber. Je ne vais pas retomber dans des anciennes habitudes. » Cette fois, mon orgueil, je le laisse de côté. Peut-être que lundi matin, nous retomberons dans des péchés, dans des habitudes que nous avions. Mais le sacrifice de Jésus a couvert tout cela. Et nous pouvons sereinement nous approcher à cette table, dimanche après dimanche. Parce que Jésus ne se lasse pas de nous dire « mangez et buvez ». Son pardon est sans limite. Et à chaque fois, il nous accueille. Son sang a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Dans une discussion que j'ai eue hier, vous savez, quand on prépare des prédications, en tout cas pour moi, je pense que ça me concerne plutôt moi que d'autres, bien sûr. Mais des fois, on lit le texte, on est porté par le texte, on se dit « il y a quelque chose d'incroyable dans ce texte », et puis toute la semaine, le texte nous habite, nous porte. On écrit le message, il n'y a pas tellement d'hésitation, ça avance, on est content, il y a une satisfaction. On sent qu'on est béni par ce qu'on reçoit. Et des fois, ben, il n'y a pas grand-chose. En tant que prédicateur, c'est des fois difficile d'être porté par le texte. On a beau travailler, creuser, ben voilà, il ne se passe pas grand-chose. La semaine passée, je me suis senti porté par le texte. Ce texte des Corinthiens m'a habité. Et cette semaine, quand j'ai lu ce chapitre 26 de Matthieu, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui va me porter encore cette semaine. Et plus je creusais le texte, moins le texte me portait. Et je me dis, mais c'est dommage, j'étais frustré, parce que je me dis, mais c'est quand même le texte du repas du Seigneur, le texte qui parle de la scène, s'il y a bien un texte qui doit me porter cette année, c'est celui-là, où je dois un petit peu ressentir des choses, des émotions, etc. Et puis ce matin, j'étais frustré, puis je me dis, mais Seigneur, je dois donner ma prédication, alors que je dois reconnaître que voilà, j'ai préparé ce texte, j'ai eu beaucoup de joie, j'ai découvert des choses, mais je n'ai pas été plus porté, impacté par ce texte. Et puis dans ce moment où je remettais cela à Dieu, j'ai eu ce sentiment qui me disait, mais en fait, toute cette semaine, tu as cheminé avec ce texte, mais à chaque fois que tu as prié sur ce texte, tu m'as adoré. Parce que quand je repense à ce que Jésus a fait pour moi, quand je relis ce texte, moi, cette semaine, je l'ai lu plusieurs fois, et chaque fois, je priais, mais merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Je suis incapable de me sauver moi-même. Je n'ai peut-être pas été porté par ce texte comme d'habitude, mais je crois que quand je repense à ce que Jésus a fait pour moi, en fait, j'ai passé la semaine à prier pour l'adorer. Et je crois que ce texte, l'idée n'est pas qu'on vive des émotions, c'est super si on le vit. Mais je crois que ce que Jésus a fait pour nous, ce repas à la Pâque, doit nous mener vers l'adoration. Quand on prend ces éléments, ce pain, ce vin, on peut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a péché, on peut se repentir. Mais nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien besoin d'ajouter. Et je crois que c'est bon de pouvoir s'approcher de cette table avec un cœur plein d'adoration, de reconnaissance. Pierre a commencé ce culte en disant « on est dans la joie ». Et oui, je crois que nous sommes dans la joie parce que Jésus nous a sauvés. Nous ne sommes pas errants sur cette terre, Mais nous avons une espérance. Et quelle que soit notre souffrance ou ce que nous vivons, Jésus nous a rachetés. Et ce qu'il a fait ne minimise pas la souffrance ou l'impasse dans laquelle vous pouvez être. Mais je crois que cette table, ces éléments, ce pain, ce vin, que ce que Jésus a accompli à la croix nous mène vers une adoration, malgré tout. Que le repas que nous allons prendre tout à l'heure, nous, soit un acte d'adoration que nous donnons aussi à notre Seigneur. Amen.